Livre de Sophonie, chapitre 3, versets 17 à 20. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Il aura pour toi une triomphante allégresse. Je recueillerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont demeurés loin de toi, sur qui le déshonneur pesait comme un fardeau. Voici qu'en ce temps-là, j'agirai contre tous ceux qui t'affligent. Je sauverai celles qui boitent et je rassemblerai celles qui étaient chassées. Je ferai d'eux un sujet de louange et de renom sur toute la terre où ils sont dans la honte. En ce temps-là, je vous ferai revenir. Ce sera le temps où je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de renom et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Amen. Prophétie, cette parole qui annonce bien sûr eh bien, l'œuvre de Jésus, l'œuvre eh bien, du Maître pour son Église, tout à fait remarquable. Mais en la lisant, je me suis dit que dans ce texte, notamment dans le verset 17, il y avait trois promesses qui sont tout à fait remarquables. Trois promesses quant à l'attitude de Dieu à notre égard, qui m'ont profondément touché, qui m'ont profondément marqué, et l'une d'elles notamment. Vous savez, Dieu reste notre Dieu. Dieu reste Dieu. Dieu reste au-dessus de toutes choses. Mais nous aurions tort de ne considérer que Dieu à cette échelle-là. Dieu est également notre Père. Et je trouve que ces trois promesses qui nous sont faites au verset 17, ça s'apparente très très bien à l'attitude d'un Père. Dieu n'est pas simplement un Dieu lointain, nous le savons, mais c'est un Père qui prend soin de ses enfants. Souvenons-nous des paroles de Jésus qui dira que de la même manière, eh bien que Dieu veille sur sa création, nourrit le passereau, prend soin du lys des champs, eh bien Dieu prendra soin de nous. À combien plus forte raison. Dieu est un Père qui connaît nos besoins. Dieu est un Père qui prend soin de nous. Dieu est un Père avec lequel nous ne manquerons de rien. Et dans ce texte, eh bien, trois promesses nous parlent de l'attitude de Dieu à notre égard. Premièrement, Dieu est un héros qui sauve. Et là, en réfléchissant sur ce passage, j'ai imaginé les yeux d'un enfant lorsqu'il regarde son père. Un petit bout de chou. Souvenez-vous, lorsque vous étiez dans les cours de récréation, vous vous amusiez à dire « Mon père, c'est le plus fort ». Mon père, il sait faire ci. Mon père, il sait faire ça. Mon père, il bricole. Mon père, il est doué sur Caleb. Mon père, il est doué sur Excel. Mon père, il sait surfer sur Internet. Mon père, c'est le plus fort. Et c'était la vision d'un enfant tout à fait extraordinaire sur la vision du père. Mon père, ce héros, comme s'intitulera un film. Les yeux, le regard que pose un enfant sur son père est un regard d'admiration profonde. Et finalement, c'est le regard que nous avons posé sur notre héros. Sur celui qui nous a sauvés. C'était le regard de l'enfant né de nouveau, qui s'est posé sur la personne de Dieu en découvrant l'amour que celui-ci avait manifesté. Mon père là-haut, il m'aime. Ce Dieu là-haut, il m'aime. Et là, nous avions les yeux de notre cœur qui étaient profondément illuminés, remplis de cette même candeur et remplis de cette même admiration. Mon père. Et puis en grandissant, les enfants admire un petit peu moins leur père. Et en grandissant, les chrétiens perdent peut-être un petit peu de cette admiration. L'image du héros est associée à celle du père. Mon Dieu est mon héros, et c'est un héros qui sauve. Deuxième chose, il garde le silence devant nos fautes. Je me souviens de l'attitude de ce papa. J'étais en visite et puis du coin de l'œil, il surveillait son enfant qui était en train de faire une bêtise. Alors, pour plaisanter, je lui dis, oui, c'est dur la vie de papa. Il me dit, c'est pas la peine que je parle. Il sait. Et effectivement, l'enfant, alors qu'il était en train de toucher quelque chose qu'il ne devait pas toucher, il jetait des coups d'œil à son père. Le père n'a pas eu un mot à dire, un simple regard a suffi. Et je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous n'avez rien dit? Il me dit, oh, il faut qu'il apprenne aussi par lui-même. Notre Dieu garde le silence, ce qui ne veut pas dire qu'il parfois il est d'accord. J'aime beaucoup cette notion. Sous-entendu, on pense que parce que Dieu se tait, Dieu est d'accord. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui signifie que Dieu patiente. Afin que nous revenions de nos mauvaises voies. Que nous revenions de nos erreurs. Que nous revenions de nos péchés. Avec l'expérience, on sait que parler finalement ne sert pas à grand-chose. Mais que prier est bien plus utile. Et Dieu, en attendant que nous revenions, eh bien, il y a le Saint-Esprit qui travaille dans les cœurs. L'apôtre Pierre nous explique que si le Seigneur Jésus tarde à revenir sur l'ordre du Père, c'est tout simplement parce qu'il patiente, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Un père garde le silence parfois. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne souffre pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne sait pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ignore. Ce qui ne veut pas dire qu'il est d'accord. Mais il garde le silence pour nous donner une chance. Parce que si Dieu parlait, posez la question ce matin, en réfléchissant un petit peu sur ces notions, si Dieu dévoilait toutes nos vies là ce matin, si Dieu ouvrait la bouche, si Dieu tout d'un coup se mettait à parler, heureusement que Dieu a l'amour d'un père et qu'il se tait et qu'il garde le silence. Troisième notion, et c'est sur celle-ci que nous nous arrêterons, il fera de toi sa plus grande joie. Ce verset est très important pour nos vies chrétiennes, est ô combien important pour nos vies chrétiennes. Dieu est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Il est à l'origine de nos vies. Il a toutes choses entre ses mains. Lui offrir des sacrifices, lui offrir toutes sortes de choses ne sert de rien. Il contrôle tout. Et pourtant, le prophète Sophonie, parlant de la part du Père, dira « À Israël, tu feras ma plus grande joie. » Et je crois, mes frères et sœurs, que cette parole est également pour nous. Nous, simples bipèdes, bien imparfaits, nous avons la possibilité, nous avons le privilège de pouvoir faire la joie du Dieu Tout-Puissant. Il fera de toi non pas sa joie, mais il fera de toi sa plus grande joie. Ce qui réjouit Dieu, ce ne sont pas ses actes. Ce qui réjouit Dieu, ce n'est pas les miracles qu'il accomplit, mais c'est le fait, eh bien, que nous soyons ses enfants. Nous réjouissons le cœur de Dieu. Nous avons la possibilité de réjouir le cœur de Dieu. C'est extraordinaire, ça. Nous avons la possibilité de faire du bien au Dieu des cieux. Dieu est une personne qui a des sentiments. Et nous savons, je vous le dis souvent, que nous pouvons l'attrister comme nous pouvons le réjouir. Mais l'état de base, l'état par défaut de notre Dieu, c'est la joie. De la même manière qu'un père est fier de ses enfants, de la petite crevette qui vient tout juste d'accoucher, il y a le regard du père en disant « Ah, oh, il est magnifique !» C'est un bébé, quoi. Non, c'est le plus beau. Bah ouais, mais attends, c'est un bébé. Ouais, mais non, c'est le plus beau, quoi. Il y a une joie, il y a une fierté. Et dans le cœur de Dieu, c'est exactement la même chose lorsqu'il nous regarde. Par défaut, à la base, le cœur de Dieu est initialisé pour que nous fassions sa joie. Alors, je suis allé un petit peu plus loin dans ma réflexion. Comment pouvons-nous alimenter la joie de Dieu? Premièrement, le Père se réjouit lorsque nous revenons à lui. Nous connaissons tous la parabole du fils prodigue. Mais vous savez comment elle se conclut? Il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 prétendus justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce qui réjouit le cœur du Père, c'est non pas que ses enfants soient forcément parfaits, mais c'est que ses enfants soient capables de revenir. Ce jeune homme, il a généré la honte. Il a dit à ses parents, « Voilà, je veux mon héritage avant même que tu sois mort. » Et puis, casse le livret A, casse l'assurance vie, tant pis pour les droits de succession, tu me donnes ce qui me revient. C'était quelque chose de terrible à l'époque. Il s'en va et il dilapide tout avec ses amis. Il réduit tout à néant. Et là, il se retrouve à garder les pourceaux. Il rentre en lui-même. Il fait un point sur sa vie. Il avait tout dans la maison du Père. Maintenant, il n'a plus rien. Il fait un point. Même cette expression « rentrer en lui-même ». Est-ce que cela nous arrive de rentrer en nous-mêmes ? Non, nous sommes chrétiens. Ce n'est pas la peine. On est sauvés par grâce. Est-ce que ça nous arrive tout de même, de temps en temps, de rentrer en nous-mêmes, de nous laisser sonder par le Saint-Esprit ? Parce qu'il y a une possibilité infime qu'éventuellement nous ayons pu attrister le cœur de Dieu. Est-ce que cela peut nous arriver ? Et là, ce jeune homme, il va avoir cette révélation de dire « J'avais tout dans la maison du Père. Même mes serviteurs ont tout en abondance. J'irai vers mon Père. Je me lèverai. J'irai même vers mon Père. Je lui dirai « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Considère-moi comme l'un de tes serviteurs. » Ce que j'aime beaucoup dans cette parabole, je ne m'étends pas, mais c'est qu'il va faire exactement ce qu'il a dit. Exactement. Au mot près. Où est-ce que je veux en venir ? Nous pouvons peut-être être avec le Père. Ou le Père peut être avec nous. Mais il se peut que nous ne soyons plus dans la maison du Père. C'est-à-dire, et la pensée que j'ai sur mon cœur dans cette première partie, si nous voulons réjouir Dieu, nous ne devons pas simplement attendre que Dieu vienne chez nous, mais nous devons aller chez lui. Et bien des chrétiens, bien des enfants de Dieu, partant d'une bonne volonté ou parce que le temps est allé, ne vont plus à la maison du Père. Mais c'est le Père qui est censé venir à eux. Alors le Saint-Esprit frappe à la porte, oui. Eh oh, je suis là. Viens, sors un petit peu. Viens, retourne dans la maison du Père. On a la conscience du Père, on a la conscience de l'existence du Père. On sait qu'il y a un Père. On sait qu'il y a toutes sortes de richesses auprès de lui. On le sait, même si on n'est pas en train de garder les cochons. On sait qu'il est là. On sait qu'il existe. Pour autant, on ne va plus à la maison du Père. On attend que le Père vienne vers nous. On attend que le Père vienne vers nous. Alors certes, le Fils a envoyé l'Esprit. Certes, le Saint-Esprit est là. Mais quelle est la vocation du Saint-Esprit ? De nous ramener dans la maison du Père. De quelle couleur est la maison du Père ? Est-ce que tu pourrais me la décrire ? Je provoque volontairement. C'est quoi la présence de Dieu pour toi ? C'est quoi la présence de Dieu ? Comment est-ce qu'elle se retraduit ? Pose-toi cette question. Et si tu es embêté pour y répondre, peut-être es-tu l'un de ces hommes, l'une de ces femmes, qui n'ont plus été dans la maison du Père depuis bien longtemps, qui viennent dans l'église du Seigneur, mais qui n'élèvent plus leur âme dans la maison du Père, là où il y a tout en abondance. Rentre en toi-même. Réfléchis sur toi-même. Réfléchis sur ce que tu es, sur ta relation avec Dieu. Je te posais une question, je pourrais plus le voir dans le deuxième point, mais je vais le voir maintenant. Est-ce toi qui vas vers Dieu ou est-ce Dieu qui vient te chercher ? Question simple. Est-ce que Dieu est obligé de tambouriner à la porte de ta vie pour que tu t'approches de lui? Est-ce que Dieu est obligé de te secouer pour que, viens me voir un petit peu? Vous imaginez une relation comme ça? Quelque chose de terrible. Est-ce que Dieu est obligé parfois de susciter des épreuves, des difficultés, ou de permettre des difficultés afin de réveiller ta foi, de générer une forme d'électrochoc? Je ne dis pas que toutes les difficultés sont liées à ça. Va-t-on vers le Père? Fils prodigué est revenu. Les chrétiens sont allergiques à cette prédication du Fils prodigue parce qu'ils l'ont tellement entendu, sous toutes les formes, sous tous les aspects que... Mais vous savez, on est plus souvent fils prodigue que l'on ne croit. Bien plus. Parce que la maison du Père, on la quitte tellement facilement. Les préoccupations de la vie, les souffrances, les douleurs, les doutes, les questions, les blessures. Une parole mal adressée nous fait quitter la maison du Père. Je ne parle pas forcément de l'Église, je parle de la relation avec Dieu. Rentre en toi-même. Prends des résolutions. Et retourne dans la maison du Père. Retourne avec lui. Deuxième chose. Deuxième axe. C'est avoir ce que j'appelle, c'est valable pour les couples d'ailleurs, mais des moments ensemble. Je crois que il est nécessaire, nous devons créer des moments de qualité avec Dieu. Et pour ça, il est nécessaire, au-delà des moments, je dirais que, parce que je suis certain que vous avez tous au moins un temps par jour avec le Seigneur, donc ça ne pose strictement aucun problème, je prêche dans le vent. Mais je dirais que c'est donner la priorité. Il n'y a rien de pire, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, que de se sentir mis en queue de peloton par des gens que l'on aime. C'est terrible ça. Quelqu'un pour lequel vous avez de l'affection et qui vous dénigre, qui s'occupe de vous quand il a le temps. C'est quelque chose de dur, non? Vous aimeriez le vivre? Là, vous sentez le piège. Je repose la question, parce que vous aimeriez le vivre? Non, j'ai pas entendu. Vous aimeriez le vivre? Bon. Alors maintenant, j'en arrive là où je vais en venir. Parfois, dans le cœur de Dieu, c'est un petit peu ce qui se passe. On ne lui donne que les moments qui nous arrangent. On ne lui donne que les temps qui finalement ne nous dérangent pas de trop. Et finalement, quand il nous reçoit, je ne sais pas si c'est juste de dire ça, il est content de nous avoir. Mais il y a quand même un pincement dans son cœur. En disant, attends, je t'ai sauvé, je t'ai nourri. C'est un raisonnement humain que je tiens. Dieu ne tient pas le même, d'accord? Mais j'essaie d'imager les choses. Et tu viens me voir que maintenant. Marie donnera la priorité à Jésus. En dehors des activités tout à fait louables de Marthe, Marie va donner la priorité à Jésus. J'ai essayé de me rappeler dans ma courte vie avec le Seigneur des meilleurs moments que j'avais passés avec lui. Et je me suis aperçu que c'était bien souvent des moments que je lui avais offerts et qui m'avaient coûté. Je me souviens très bien de ce jeûne et prière notamment, où j'avais vraiment pas envie d'y aller, en plus je prêchais. Mais je vous assure que je n'avais vraiment pas envie d'y aller. J'étais fatigué, j'avais mal au dos, et c'est là que j'étais guéri. Soit de ce camp, où je n'avais vraiment pas envie d'aller, où j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. C'est très souvent le cas. Parce qu'il y a un combat, puis je crois surtout que Dieu honore quand on lui fait des cadeaux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Je choisis.
Et passer du temps avec Dieu, c'est un choix. Si on attend qu'un ange vienne nous taper sur l'épaule et vienne nous dire « Eh, faut que tu passes du temps avec ton maître, faut que tu passes du temps avec ton père », mais attendez, on peut attendre longtemps. Je choisis, parce que j'aime mon père, j'aime marcher avec lui. Je choisis de passer du temps avec lui. C'est un choix de ma part. Et je sais qu'ainsi je vais le réjouir. Je n'ai pas le temps. Psaume 73, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est ça notre richesse. Et on s'aperçoit très bien que quand on met ce temps à part pour Dieu, ensuite toute la journée est beaucoup mieux organisée. Mais à contrario, quand on ne le fait pas, on part un peu dans tous les sens. On part complètement dans tous les sens. Ça m'arrive de temps en temps, chut, mais il ne faut pas le dire. D'accord, c'est un secret entre vous et moi. Je souffre, mais je viens à toi. Parce que, Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Je suis un enfant qui vient se blottir dans les bras de son père. Lorsque vos enfants se cassaient la figure en bicyclette, quel était le premier réflexe? Un, ils criaient. Deux, ils laissaient la bicyclette et ils allaient dans vos bras. Et c'est vous qui alliez récupérer la bicyclette. Parfois, nous, en tant que chrétiens, on tombe et on cherche à relever la bicyclette avant d'aller dans les bras du Père. Et on ne veut aller dans les bras du Père qu'une fois qu'on est guéri. Dieu est un Père. Dieu est ton Père. Je suis fatigué, mais je viens quand même. Je vais quand même chercher mon Père. Seigneur, je veux t'offrir le meilleur. Parce que je sais que tu renouvelles les forces pendant la marche. Tu es ma priorité dans mon temps avec Dieu. Le temps avec Dieu est ma priorité. Parce que je veux faire ta joie. Je veux faire ta joie. C'est pas neutre de se dire que chaque fois que l'on prie, chaque fois, j'aime beaucoup ce texte du Cantique des Cantiques qui dit qu'un seul de ses regards, il parle de la Tsunamite, me ravit le cœur. Un seul de tes regards me ravit le cœur. Alors vous me direz, mais parfois il ne se passe rien quand on est avec Dieu. J'ai l'impression qu'il ne se passe rien. J'ai l'impression que c'est le silence. Quand j'étais gosse, j'allais souvent avec mon père marcher dans les Pyrénées. Et puis ça durait 4, 5, 6, 7 jours. Et chez les comtesses, contrairement aux apparences, on est loin d'être des grands bavards. Donc on pouvait passer 5, 6 jours sans parler. À part, passe-moi le pain, ou... sans parler, on marchait et on ne parlait pas. Mais quelle joie de marcher main dans la main, de savoir qu'il était là et de savoir que j'étais avec lui. La marche avec Dieu, c'est exactement la même chose. C'est la joie de savoir que notre Dieu est avec nous. Et pour lui, la joie de savoir que l'on est avec lui. La joie de savoir qu'il est à côté de nous et que si le besoin est, on peut lui parler. La joie de savoir que si notre cœur est trop lourd, on peut lui parler. La joie de savoir que si notre cœur est dur, eh bien on peut lui parler. La joie de savoir que si notre cœur est dans la peine, on peut lui parler. La joie de savoir que si on a un conseil à lui demander, on peut lui parler. Et ça, ça fait sa joie, parce que c'est un acte de confiance. Je sais. Notre Dieu sait. Sait qu'on lui fait confiance. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tout ce que je suis est tourné vers mon Dieu. Tout ce que je suis est tourné vers mon Dieu. Ça je laisse. Troisième point. Nous réjouissons le cœur de Dieu lorsque nous sommes fiers de lui et que nous le montrons. Anecdote personnelle, après j'en viendrai au texte biblique. Papa était pasteur. Et à l'école, question récurrente en début d'année, ton père il fait quoi? Éboueur. Ton père il fait quoi? Je ne pouvais pas dire professeur parce qu'ils se connaissaient tous. Oui, je vais inventer des métiers. Ouais, pas simple, parce qu'après, il fallait expliquer que c'était un curé protestant. Alors, c'était loin d'être évident. C'est tout pour un gamin. Puis un jour, il l'a su. Ça ne lui a pas fait plaisir. Vous savez, premièrement, nous avons matière à être fiers de notre Dieu et nous avons vocation à le proclamer. Et c'est toute la vocation de la louange. Psaume 51,15, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » Psaume 40, « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. » Je ne ferme pas mes lèvres. Petite parenthèse, c'est pas grave si vous priez à deux ou trois en même temps. Vous êtes très poli, je le remarque, vous ne vous coupez pas les uns les autres, mais si ça arrive, c'est pas un péché. Quand on arrive à un certain nombre, malheureusement, si tout le monde veut s'exprimer, on y est obligé. Je ferme la parenthèse. Je publierai. Je parlerai de toi, mes frères et mes sœurs. Je louerai ton nom. Je dirai ce que l'Éternel a fait. Je proclamerai ses hauts faits. La louange, on pourrait la définir comme ça, mais c'est une définition qui est très personnelle. C'est être fier de son Dieu et le dire. C'est être fier de ce qu'il est. Et l'action de grâce, c'est être fier de ce qu'il fait. Deuxièmement, c'est être fier de ses frères et sœurs et être fier de son Église. Paul écrira à Timothée, dans sa seconde épître, donc le testament spirituel, alors que l'apôtre Paul va mourir, il le sait. « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Ça, nous le verrons en troisième point, vous vous en doutez. « Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Ce qui a retenu mon attention, c'est cette petite phrase. « N'aie pas honte de l'Évangile, ok, ni de moi son prisonnier. » Là, on décèle comme une souffrance dans le cœur de l'apôtre Paul. Tous ceux qui l'ont abandonné alors qu'il est tombé dans les chaînes. Et s'il est tombé dans les chaînes, c'est à cause du nom de Jésus. Et Paul dira à Timothée, « Timothée, pas toi. Ne m'abandonne pas, toi. Ils m'ont tous abandonné, mais toi ne m'abandonne pas. N'aie pas honte de ce que je suis. » Avoir honte de son Église, avoir honte de ses frères et sœurs, en dire du mal. Oups, je vois des yeux qui s'arrondissent. Proclamer leurs défauts. Les publier, ce qui s'appelle de la médisance. Les inventer, ce qui s'appelle de la calomnie. C'est faire honte à Dieu. L'Église, c'est quoi ? C'est son corps. Il en est le chef. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit tomber en admiration béate devant ce qui se fait, devant ce qui se dit. Ce qui ne veut pas dire que l'on doit être d'accord avec tout. Ce qui signifie que si on veut honorer notre Dieu, il y a des choses qu'il vaut mieux taire. Ou alors les dire dans la transparence et dans l'honnêteté. C'est être fier de ce que Dieu fait. C'est être fier de ce que Dieu accomplit. C'est être fier des âmes que le Saint-Esprit sauve. C'est être fier des hommes et des femmes qui sont guéris. C'est être fier d'appartenir à un corps aussi glorieux, à une œuvre aussi grande et à une œuvre aussi belle. Ça va ? Vous ne me détestez pas. C'est pas grave sinon. Troisièmement, c'est une prise de position pour défendre les valeurs de notre Père. Et pour accomplir son nom. Pour annoncer son nom. Luc 9, 26, on connaît bien, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Je vous laisse méditer, d'accord ? On sait que le témoignage n'est pas forcément une chose facile, mais pourtant, avons-nous raison d'avoir honte de notre Dieu ? Paul dira, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et le témoignage n'a rien à voir avec du prosélytisme, mais le témoignage c'est un partage fraternel de ce que le Seigneur a fait dans notre vie. Dans la simplicité, ça n'a rien à voir avec de la théologie, mais c'est tout simplement être fier de ce que Dieu a fait en nous. Tout simplement être fier de ce que Dieu a fait en nous. Ni plus, ni moins. Ce n'est pas essayer de convertir qui que ce soit, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement, mais c'est être fier de ce que le Seigneur a fait en nous. Et si nous le faisions, si nous témoignons non pas pour accomplir, je ne sais pas, j'ouvre une petite parenthèse, si nous switchions dans notre manière d'envisager les choses, si nous le faisions non plus parce qu'on nous dit de le faire, moi pas souvent, vous pourrez remarquer, mais parce que nous sommes fiers de ce que le Seigneur a fait en nous. Et pour être fiers de ce que le Seigneur a fait en nous, il est nécessaire de savoir ce que le Seigneur a fait en nous, d'en être conscient, il est nécessaire que le Seigneur ait fait quelque chose en nous aussi. C'est important ça, de se dire je suis fier de mon Dieu, je suis fier de ce qu'il est, de la même manière que je suis fier de mon Père. Il m'a donné la vie, et on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est comme ça. Alors en conclusion, Saint-Esprit atteste à nos cœurs que nous sommes des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit l'atteste. Je ne sais pas quels ont été vos rapports avec Dieu. Mais sachez qu'en tout cas, il veut s'occuper de vous comme un père s'occupe de ses enfants. Il veut s'occuper de toi comme un père s'occupe de son enfant. Avec le même soin, avec la même minutie. Il veut que tu aies le même regard. Deuxièmement, et si notre joie venait du fait que nous rendons notre Dieu joyeux ? Je ne sais pas. Dans des choses aussi simples que la louange, dans des choses aussi simples que la prière, dans des choses aussi simples... Même si il ne se passe rien de palpable, nous saurons que notre Dieu est joyeux. Nous saurons que nous faisons la joie de notre Dieu. Et jour après jour, mon frère, ma sœur, sache que tu fais la joie de ton Dieu. Dieu n'est pas un Dieu qui te condamne, qui te juge, qui te détruit, mais tu fais la joie de ton Dieu. Alors que le nom du Seigneur soit béni.